Marceau le matin.
8h23 minutes, un excellent vendredi. Salutations, mon nom c'est Yann Marceau. Je t'accompagne jusqu'à 10h. Accompagné de mon chum Jeff Fortin qui travaille extrêmement fort, qui a des yeux partout, des oreilles partout, qui sort des extraits à gauche et à droite. T'es une machine, merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Mon chum. Puis celle qui m'avait quitté pour un plus riche ben, est en remplacement de Max Larouche ce matin.
Ouais, je suis revenu chercher un peu de chèque avec toi.
Là. Salut Pascal.
Salut Yannick.
Un peu de monnaie.
Un peu de monnaie de fond de poche.
Un peu de monnaie.
On m'a obligé.
418-971-1021, 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire. Se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'être nos yeux, nos oreilles. Pascal, breaking news.
Ouais, Donald Trump a affirmé ce matin là, dans les dernières minutes que le suspect du meurtre de Charlie Kirk, tué par balle mercredi cette semaine, a été arrêté. Donc, on vient d'annoncer tout ça. Pour reprendre ses mots, il dit « Je pense avec un haut degré de certitude que nous l'avons en détention », c'est ce que le président américain a déclaré, ajoutant qu'il y avait quelqu'un de très, très, très proche qui l'avait dénoncé.
Merci beaucoup. Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, est au bout du fil. Salut, Éric.
Bonjour, ça va bien?
Ouais, quelle histoire, l'histoire de Charlie Kirk. Hein? C'est, il y a des gens qui se déchirent à gauche et à droite sur cette histoire-là, puis j'ai l'impression que c'est pas terminé. Là.
Non, puis ce qui est triste là-dedans, c'est que Charlie Kirk, je sais que la majorité des Québécois ne le connaissaient pas avant d'en entendre parler là, à cause de son assassinat.
Ouais.
Mais moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a peut-être quoi, plus qu'une dizaine d'années, parce qu'à l'origine, c'était un étudiant sur un campus universitaire, puis un des premiers, en tout cas moi, c'est le premier que je suivais ces réseaux sociaux qui m'a éveillé à cette réalité-là. C'était tout le mouvement woke, là, puis les dérives du mouvement woke sur les campus universitaires américains. Aujourd'hui, évidemment, on vit ça, même au Québec, là, on trouve ça à l'Université Laval, mais à l'époque, il y avait quelques universités aux États-Unis où la dérive a commencé. Et moi, c'est lui qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup de Charlie Kirk, j'étais pas évidemment pas d'accord avec bien de ses idées, là, mais avec d'autres, j'étais tout à fait en accord. Là. Mais c'était pas ça, c'était le fait. Comment il confrontait les gens qui pensaient pas comme lui? Il était toujours, puis on passait des clips souvent là, sur TikTok, là, des clips de 30 secondes, une minute, où il y avait un échange entre une personne qui pense pas comme lui, puis lui. Puis je trouvais tellement que son sens de la rhétorique, ses réponses précises, rapides, il était vraiment... C'était comme une machine, là. C'était vraiment intéressant à regarder. Donc, ce que j'aimais de ce gars-là, c'était justement le dialogue avec des gens qui pensent différemment. Et c'est ça qui est au cœur du problème actuel. On veut vivre dans des safe spaces, on veut annuler celles et ceux qui pensent différemment de nous. Et c'est, en quelque part, on est en train de perdre une partie de la démocratie quand on fait ça. Puis on alimente une forme de violence,
ouais,
et de rupture.
Ce qui est hallucinant, Éric, c'est de voir des hommes et des femmes qui souhaitaient la mort de cet individu-là, qui étaient très heureux de sa mort. T'sais, moi, je veux pas vivre dans un monde où si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ben, on est bien satisfait qu'il se soit fait descendre. T'sais, souviens-toi, quand Donald Trump a failli se faire tuer, ouais, lors de la tentative d'attentat, plein de gens au Québec, des gens qui étaient à Radio-Canada, qui avaient des bonnes carrières, ben ils disaient, ouais, dommage qu'on l'ait raté, pardon, un peu là, peut-être que tu peux pas être d'accord avec, peut-être que tu trouves cet individu-là ignoble, mais n'en demeure pas moins qu'il méritait pas la mort.
Bien, tu sais, parce que quelqu'un pense différemment de nous, on se réjouit que le père de famille de deux enfants meure, puis que les deux enfants se ramassent orphelins, puis la mère se ramasse veuve. C'est fou, là, c'est, je veux dire... On a le droit d'avoir des débats. C'est sain d'avoir des débats. C'est ça, une démocratie. Quand tu ne te parles plus dans une société entre groupes qui pensent différemment, c'est dangereux. Puis les réseaux sociaux nous alimentent dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est souvent à cause des algorithmes avec des gens qui pensent comme nous, hein. On est moins confrontés aux idées contraires. Et ça, c'est un effet pervers, là. Il faut combattre ça. Il faut justement s'ouvrir à l'autre. Puis ça arrive des fois. Même moi, ça m'arrive qu'il y a des gens qui pensent différemment de moi. À force de les écouter, puis à force d'entendre leurs arguments, je finis par me ranger à leurs idées. Je veux dire, c'est positif, cette affaire-là. Puis c'est aussi positif les gens qui nous écoutent, qui puissent se faire leur propre opinion à partir de points de vue différents.
Ouais.
Puis tu sais, quand tu ne parles plus, là, t'as un problème. Là, c'est la même affaire que ta femme, là. Si ta femme, plutôt, vous parlez plus, c'est sûr qu'il y a un divorce ou une séparation en vue, là. C'est essentiel pour que ça fonctionne comme du monde. Mais c'est la même chose dans une démocratie.
Exact. Hey, écoute, Éric, je viens d'avoir un commentaire qui est rentré à station, oui. 418-971-101. Je le trouve particulier, le commentaire. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Charlie Kirk, qui avait des propos parfois qui pouvaient être considérés comme homophobes, des propos, oui, qui pouvaient être considérés contre la communauté LGBTQ+2. Pourquoi tu méprises pas ce gars-là?
Bien, d'abord, c'était quelqu'un, puis vous pouvez regarder ses réseaux sociaux, vous allez le trouver, là, qui disait qu'il y avait même des gays conservateurs qui l'avaient déjà confronté là-dessus, puis il disait, c'est que tout le monde a le droit d'être conservateur, puis ils ont des bonnes raisons d'être conservateurs. Mais cela étant dit, c'était un gars qui avait des convictions religieuses très fortes et qui appliquait là, les principes là, par rapport à l'homosexualité qu'on retrouve dans la Bible ou à peu près. Là. Donc, c'est sûr que moi, c'était pas, comme je l'ai dit tantôt, il y a des opinions qu'il y a que, avec lesquelles j'étais pas nécessairement d'accord. C'est sûr que c'est une droite plus conservatrice que celle qu'on a au Québec là, sur le plan social. Mais je veux dire, à la limite, là, il y a des gens qui ont le droit de croire à la Bible puis ont le droit d'être d'accord avec les principes qui sont évoqués là-dedans. Là, moi, je suis pas quelqu'un qui veut annuler puis qui veut empêcher les gens qui pensent différemment de moi de s'exprimer là. Puis en passant là, les propos que Kirk avait là, probablement que si ma grand-mère, mon arrière-grand-mère est encore vivante là, il répéterait mot à mot la même chose parce qu'au Québec, il y a eu une époque où c'était la pensée très dominante cela là. Fait que tu sais, c'est facile de juger les gens là, mais des fois faut. Puis ma grand-mère, c'était pas une mauvaise personne là. Mais elle allait à la tous les jours, puis elle croyait dur comme fer quand elle lisait ça. Fait que je veux dire, c'est pas. À un moment donné, il faut se mettre dans les pieds, dans les souliers de l'autre, puis il faut essayer de comprendre son point de vue, puis même, puis il faut essayer de le combattre avec des idées, pas en disant qu'il faut l'annuler, puis en le traitant de tout et non, puis surtout pas en le tirant dessus, puis en faisant la promotion de la violence.
Exact. Faut arrêter de se déchirer les uns les autres, ça n'a pas de bon sens, ça ne peut plus continuer comme ça. Écoute, c'est une mauvaise journée encore aujourd'hui. En fait, ça a commencé hier soir. Là. Mardi, il y a eu un autobus scolaire électrique Lyon qui a passé au feu. Et hier soir, les gens qui sont responsables du transport de nos enfants se sont rassemblés, puis ont dit « OK, on va commander dès demain matin » l'inspection de tous les véhicules électriques, ce qui fait en sorte que ce matin, tellement que ça a été mal fait, il y a des gens qui nous écoutaient, Éric, et ils étaient sur le pont La Porte, ils se sont fait dire que leurs enfants ne pouvaient pas être ramassés pour amener à l'école parce qu'il n'y avait pas d'autobus. L'information ne s'est pas nécessairement rendue à eux rapidement. Encore une fois, c'est une catastrophe pour le gouvernement de François Legault.
Là. Écoute, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Là. D'abord, il faut comprendre qu'il y a 1200 autobus Lyon qui sont aujourd'hui paralysés, là, qui peuvent pas circuler au Québec et qui obligatoirement vont avoir une inspection pour on va savoir dans les prochaines heures si ça va se poursuivre lundi ou non. Là. Mais pour l'instant, c'est juste aujourd'hui. Comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de parents qui l'ont appris à la dernière minute quand ils l'ont appris. Il y a bien des petits bouts de chou aujourd'hui qui étaient sur le coin de la rue et qui attendaient leur autobus qui n'est jamais arrivé. Là. Ça aussi, c'est un autre problème. Là. Puis ça ajoute, comme tu dis, à la catastrophe Lyon électrique. Pour ceux et celles qui s'en souviennent pas, je vais juste rafraîchir la mémoire de tous les auditeurs. Là. Comme contribuable québécois, on a mis l'équivalent de 445 millions de dollars dans l'aventure de l'électrification des transports scolaires au Québec. 245 millions en subventions de toutes sortes à Lyon électrique. Il y a une partie là-dedans, 50 millions là, qui vient du fédéral quand même, mais c'est pas grave. C'est nous autres qui payent, c'est le même contribuable. Et 200 millions qu'on a donné aux transporteurs scolaires pour qu'ils achètent des autobus scolaires électriques. Parce qu'au Québec, pendant 4 ans, les transporteurs scolaires étaient interdits d'acheter un véhicule au diesel. Ils étaient obligés d'acheter des véhicules de Lyon électrique. Donc, et malgré ça, la compagnie a fait faillite. Ça vous donne une idée comment ça allait bien. Puis là, aujourd'hui, on se ramasse avec une nouvelle tuile. Puis il faut que ça arrête. Là. Il faut aussi le fait de vouloir bien paraître, puis la filière verte, puis la filière batterie, puis toujours des politiciens qui coupent des rubans. Ça, là, c'est pour que les députés puissent dire, puis l'Assemblée nationale, nos élus disent, hey, nous autres, on est le premier endroit au monde où 100% des enfants vont à l'école avec des bus électriques. Ça nous a coûté 445 millions, puis non seulement ça arrive pas, mais la compagnie est en train de faire faillite, puis on est en train de mettre la sécurité des enfants du Québec en danger. À un moment donné, là, faut dire, ça suffit. Parce qu'au moment où je te parle, croyez ou pas, là, on continue à subventionner ces niaiseries-là. À chaque fois qu'il y a un autobus électrique qui sort, qui embarque ses routes, on donne 240 000 piastres de plus que ce que ça coûte un autobus au diesel pour faire exactement la même chose. Puis souvent, elle pollue même moins parce que son système au chauffage n'est pas au mazout, pas de bonne anti-pollution, comme c'est le cas avec les autobus de Lyon électrique. À un moment donné, il faut que ça arrête le bien paraître aux frais des contribuables québécois. Ouais. C'est un scandale sans nom. Puis je pense que c'est pas... Excuse-moi, vas-y.
Est-ce qu'on sait combien François Legault a perdu dans l'aventure Lyon électrique? Est-ce qu'on sait combien Pierre Fitzgibbon a perdu dans l'aventure Lyon électrique? La réponse, c'est pas une scène. C'est l'argent des Québécois qui a été perdu. Puis on s'entête encore à avoir des règlements comme ce qu'on avait mentionné il y a de ça quelques années, c'est-à-dire l'interdiction complète des véhicules à essence. Donc la vente... interdiction de la vente complète des voitures à essence d'ici 2035. C'est une catastrophe annoncée. Puis je sais que tu as eu une conférence de presse à cet effet-là hier. Là.
Oui. Hier, on a rendu public un sondage Palace. Le même sondage qui est sorti cette semaine, qui a beaucoup fait jaser, là, qui disait que pour la première fois, le Parti conservateur passait en avant de la CAQ dans un sondage. Là. Mais ce même sondage-là, nous, comme parti, on avait acheté quelques questions pour poser des questions aux gens sur qu'est-ce qu'ils pensent là, du fait d'être obligé d'acheter une voiture électrique d'ici 2035. En fait, il y avait trois propositions qui étaient soumises aux gens. Pensez-vous que c'est le consommateur qui doit décider, pas le gouvernement, si vous achetez une auto à essence ou pas? Ou pensez-vous qu'il faut interdire les ventes de véhicules à essence en 2035? Ça, c'est la position de la CAQ, là, on ne le disait pas, mais c'est la position du gouvernement actuel. Ou vous pensez même qu'il faut que ça se fasse plus tôt, en 2030? Ça, c'est la position du Parti québécois. Et ce que ça donne, c'est 63% des Québécois sont contre l'interdiction de la vente des véhicules à essence. Il y a seulement 22% des gens qui appuient la politique de la CAQ, l'interdire en 2035. Puis il y a 15% des gens seulement qui sont d'accord avec le Parti québécois qu'il faut l'interdire à partir de 2030. Donc, ils sont complètement en porte-à-faux avec la population. Puis encore là, comme les subventions à Lyon, il y a zéro député sur 125 contre l'opinion de la majorité des Québécois. Puis il y a 125 députés qui ont voté pour interdire la vente des véhicules à essence au Québec. Puis ce qui est grave, c'est que vendredi passé, il y a une semaine, jour pour jour, Mark Carney à Ottawa a annoncé qu'il retirait les quotas de vente de véhicules électriques au Québec, au Canada, pardon. Présentement, tu es obligé au Québec de vendre 20% des véhicules électriques. Tous les concessionnaires sont obligés de faire ça, les constructeurs automobiles. Ce pourcentage-là va monter le 1er janvier à 32%. Okay? Pour atteindre le 20% cette année, au mois de juillet, le ministre de l'Environnement ou l'ancien ministre de l'Environnement a annoncé qu'il changeait les règles du jeu et qu'il incluait une partie des véhicules hybrides parce que sinon, le 20%, il l'atteignait pas. Le 32% l'an prochain, c'est impossible. À part Tesla, il n'y a aucun constructeur qui va remplir le quota. Et là, on va se ramasser. Puis le fédéral, c'était supposé être à partir du 1er janvier, 20%, mais pour le reste du Canada. Là, ils ont reculé là-dessus, puis nous autres, on monte à 32. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Puis les risques sont énormes parce que ça représente 20 000 $ par véhicule, la pénalité, s'ils dépassent les quotas. Donc, il faut que le ministre de l'Environnement, le nouveau ministre, là, Bernard Drinville, il faut qu'il ait le courage de scraper ça. Hier, il a ouvert la porte un peu, là. Mais j'espère qu'il va aller encore plus loin dans les prochains jours.
Autre courage qu'il faut avoir, Éric, selon moi, puis je reviens aux autobus, c'est les autobus de transport en commun. Il faut arrêter cette lubie d'électrification-là. Juste au RTC, on va leur demander des investissements de tout près de 2 milliards de dollars. Donc, il faut arrêter ça parce qu'on s'en va dans le même mur qu'avec Lyon électrique et les autobus scolaires.
C'est un bon point que tu soulèves là parce que les autobus, on oublie tout. On parle toujours du coût de l'autobus. Puis moi-même, j'ai fait l'erreur tantôt, je vous ai parlé de 240 000. Ce qu'on oublie, là, c'est les garages puis les bornes qui doivent aller avec ça.
Puis là, il n'y a pas de garage dans les cartons à Québec, mais on les force à acheter des autobus électriques. Là, ils ont passé la commande. 1 million par autobus.
C'est ça. Puis ça, c'est à part ce que ça va coûter pour l'entretien, pour les bornes puis pour le garage. Donc, c'est fou furieux. Puis ce qui est aussi le grave, là. Puis là, pensez pas que c'est juste la CAQ. Tantôt, on disait, c'est un autre fiasco de la CAQ, c'est vrai, là. Mais je veux juste vous rappeler que la journée où le gouvernement a annoncé des centaines de millions à Lyon électrique, je vais juste vous lire le fil Twitter de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est présentement en avance d'un sondage à Québec, là. OK? Il a écrit, et je cite, « Félicitations à la compagnie Lyon électrique d'investir dans des énergies renouvelables, notamment dans l'électrification des transports. C'est aujourd'hui une nécessité. Le Québec peut et doit être un fer de lance de ce domaine. » Ça, c'est ce qui est écrit textuellement. Dans les semaines qui ont suivi, ils blâmaient le gouvernement parce qu'il n'en mettait pas encore assez. Ça, c'est le parti qui vit le changement.
On est en train d'appauvrir le Québec pour une idéologie. C'est une catastrophe. Puis j'ai hâte de voir comment le gouvernement de François Legault va gérer ça aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont contents parce que ça arrive un vendredi. Là. Puis j'étais en train de me demander si c'était pas intentionnel de mettre ça un vendredi parce qu'on va avoir passé à d'autres choses lundi. Mais je compte sur toi pour remettre ça d'actualité lundi prochain.
C'est une bonne question que tu soulèves là, parce que Yannick, c'est pas la première fois qu'un autobus électrique prend feu. Ça fait plusieurs, même aux États-Unis, ils ont interdit à un moment donné les bus électriques parce qu'il y en avait qui étaient passés au feu. C'était des bus de Lyon électrique. Fait que c'est bizarre que ça arrive effectivement vendredi, surtout que le feu a eu lieu mardi.
Mardi, exact.
Je me posais exactement la même question que toi aujourd'hui. Comment ça se fait qu'ils annoncent ça un vendredi?
Bon, ça va te faire un argument de plus aujourd'hui lors de tes entrevues médias. Moi, je charge 10%, tu le sais.
C'est bon,
hey, on a jasé avec Youri Chassin tantôt, oui. Puis j'ai été un peu achalant. Là. Moi, Youri Chassin, avant qu'il soit à la Coalition Avenir Québec, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. C'est un économiste, c'est un gars qui a des idées de droite économique. Quand il a été intégré à la Coalition Avenir Québec, il est devenu député d'arrière-ban, un backbencher. Puis on l'a toujours un peu boudé, alors que c'est un gars qui est extrêmement compétent. Fait que j'ai eu l'idée de l'achaler un peu. Je veux te laisser entendre ça.
Bien, alors je vais vous répondre très franchement, non. Parce que, dans le fond, c'est un petit peu ça aussi. Hein.
En fait, je vais te faire l'après-midi, je pensais qu'on entendait ma question. J'y ai demandé pourquoi il n'intégrait pas le Parti conservateur du Québec alors qu'il y aurait la chance de faire rentrer 500 personnes, 500 électeurs à l'Assemblée nationale.
Bien, alors je vais vous répondre très franchement, non. Parce que, dans le fond, c'est un petit peu ça aussi, hein. Moi, je suis sceptique, par exemple, du discours du premier ministre, puis je l'ai écouté très attentivement. J'espère qu'il est sérieux, j'espère qu'il va y aller. Moi, à la limite, ce matin, peut-être que je mets très sympathiquement ma propre pression pour lui dire, ben, on demande à être convaincu, mais je demande aussi au Parti conservateur, puis à tous les autres partis d'opposition, de détailler leur proposition, puis à la limite aussi d'avoir... des propositions qui vont inciter aussi le gouvernement à voler certaines idées.
Ça serait 500 000 Québécois seraient derrière vous, M. Chassin, c'est pas rien.
Alors ceux qui se sont prononcés, évidemment, qui n'ont pas de députés, je le comprends. Après ça, il y a une question de mode de scrutin, puis on peut très bien en débattre longtemps, mais...
Mais le point est que vous avez un super pouvoir.
Moi, oui, parce que je suis un des 125. Oui. Mais c'est pas nécessairement, moi, je suis pas là pour corriger un défaut de notre système électoral. Moi, je suis là pour penser d'abord et avant tout aux Québécois, à ce qu'on leur dit, à l'honnêteté qu'on peut avoir avec eux dans les constats puis dans les propositions de solutions. Et évidemment, je peux le dire, là. Moi, je m'entends très bien avec Éric Duhaime, et puis j'ai des gens avec qui je m'entends très bien dans pas mal tous les partis, en fait. Mais à la fin, je ne vois pas pourquoi je prendrais un mandat que m'ont confié les Jérômiens, hein, pour les représenter, et qui m'ont élu sous une autre bannière. Puis je leur dirais, mais savez-vous, maintenant, moi, je choisis tout seul que c'est Éric Duhaime qui va porter cette voie-là.
Ouais. Mais bien honnêtement, c'est tout à... En tout cas, bref, ce que je disais, c'est que c'est tout à son honneur de vouloir bien représenter sa circonscription, mais il a eu la chance de faire rentrer 500 000 Québécois à l'Assemblée nationale, puis il préfère être dans l'oubli à l'Assemblée nationale pendant encore un an. Je trouve que c'est une catastrophe, puis c'est un talent gâché, là.
C'est un choix qui appartient, là. C'est pas moi, c'est pas toi qui décide, malheureusement, là. Et, mais tu sais, moi, Youri, moi aussi, je le connais depuis très longtemps. Je le connais, on a travaillé ensemble à l'Institut économique de Montréal il y a plusieurs années. C'est quelqu'un que je rencontre régulièrement, à qui je parle aussi régulièrement. Mais bon, il a fait le, il veut, il a été échaudé par un parti politique, puis il a pas envie de réembarquer dans un autre. Je peux respecter son choix. Mais en même temps, la valeur pour nous autres d'avoir un député de plus à l'Assemblée nationale, Yannick a tous les jours à dire. Parce que il reste de moins en moins de temps dans la prochaine élection. Puis tu comprends que, c'est même avec la prorogation, là, il reste très peu de semaines avant qu'il y ait une élection générale. Là. Fait que de plus en plus, là, ce qui va être important pour nous autres comme conservateurs, c'est d'avoir 125 bons candidats, d'avoir les coffres remplis, puis d'avoir un bon programme électoral, puis une bonne plateforme pour les Québécois. Ça va être ça ma priorité dans la prochaine année. Là. Je pense que l'idée de représenter à l'Assemblée nationale, là, à tous les jours, a de la valeur diminuée. Je sais pas si tu me suis, là, mais c'est de moins en moins important parce qu'il reste de moins en moins de jours où le Parlement va siéger. Puis il faut s'accélérer, il faut mettre nos efforts là où ça compte, c'est-à-dire une bonne équipe de candidats, des bonnes idées pour les Québécois, pour avoir assez d'argent pour financer une campagne électorale.
On est-tu en train de dissuader ou en fait démotiver des politiciens en ce moment dans la structure?
Bien, c'est sûr qu'il y a un cynisme au Québec à l'heure actuelle là, qui est très lourd. Puis moi, c'est ça, hier, je me faisais demander en conférence de presse, c'est qui ton adversaire dans la région de Québec, c'est-tu le PQ, c'est la CAQ? J'ai dit, mon adversaire, c'est ni le PQ ni la CAQ, c'est le cynisme. Puis je vous le sentais, vous autres aussi, là. Les électeurs là sont à bout, sont écœurés. À matin, là, les dizaines de milliers de parents qui sont obligés d'aller reconduire leurs enfants puis qu'ils viennent d'entendre ce que je lui dis par rapport au financement public, puis comment ils ont interdit de vendre des véhicules au diesel, puis toute la niaiserie derrière ça pour qu'ils paraissent bien. Pensez-vous qu'ils sont pas écœurés de cette classe politique-là? Puis le problème qui arrive avec ça, c'est que les gens, au lieu d'aller dans un autre parti, d'avoir un nouvel espoir, ils sont découragés pas juste d'un parti, pas juste d'un gouvernement, ils sont découragés de l'ensemble de la classe politique, puis même de la démocratie. Et c'est ça qui est grave à l'heure actuelle, c'est que le niveau de cynisme a atteint un seuil tellement élevé que les gens décrochent complètement. Puis ça, c'est grave, là, parce qu'il va falloir motiver ces gens-là à aller voter en octobre 2026, là, puis ça va être de plus en plus difficile. J'ai peur que toute participation soit plus bas aux prochaines élections. Puis c'est triste, là, mais puis on voit l'impopularité du gouvernement, puis quand on n'est pas caquiste, on peut se réjouir de voir que c'est un gouvernement qui est historiquement impopulaire. Là, je pense que c'est juste 10% qui sont encore, qui trippent encore sous le go, là. On trouve ça drôle. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est qu'il y en a que c'est pas juste le go qui rejette, c'est l'ensemble de la classe politique.
Éric, je t'entendais dire tout à l'heure, c'est de moins en moins pertinent ou important d'avoir un représentant du Parti conservateur. Je suis un peu en désaccord avec toi là-dessus parce que je pense que justement, avec le virage que la CAQ tente de faire, ça prendrait un Parti conservateur qui les amène vraiment à droite. Alors pourquoi ça serait pas important d'en avoir un?
Parce que ce qui risque d'arriver, Éric, puis je veux surfer sur la question de Jeff qui est hyper pertinente, puis la remarque, là, ce qui risque d'arriver, c'est que François Legault copie ton programme.
Ben moi, je le souhaite. Personnellement, je le souhaite, sauf que je suis pas trop inquiète parce que François Legault, là, il a été élu en 2018 puis a accédé au pouvoir il y a 7 ans en disant qu'il allait éliminer le déficit. Ouais. Il a présenté le pire déficit de l'histoire du Québec. Il s'est fait élire en disant qu'il allait réduire la taille de la fonction publique de 5 000 employés. Il l'a augmenté entre 10 et 60 000, dépendamment si vous calculez juste fonction publique ou les employés de l'État. Il s'est fait élire en disant qu'il allait additionner le privé en santé. Il a non seulement pas additionné, il a pas construit 2 hôpitaux. D'ailleurs, il avait mis Youri Chassin responsable de ça un moment donné. Il a non seulement pas construit les hôpitaux privés qu'il avait promis, il a interdit aux jeunes médecins d'aller pratiquer dans le privé. Après ça, il nous avait promis qu'il allait exploiter notre gaz naturel. Il disait qu'il allait faire du Québec, la Norvège d'Amérique. Non seulement il a pas fait ça, il a adopté une loi pour empêcher toute forme d'exploitation ou d'exploration pour nos hydrocarbures au Québec. Fait que François Legault, il parle bien, il fait des beaux discours, mais malheureusement, il gouverne très mal. Et c'est ça qui est le problème, c'est que là, il a bien parlé cette semaine quand il a parlé au remaniement ministériel, puis il va bien parler le 30 septembre prochain pour son discours inaugural, mais malheureusement, dans la prochaine année, les bottines suivront pas les babines. En tout cas, c'est ce que j'ai peur. Je pense que c'est ce que Youri Chassin aussi vous a dit il y a quelques minutes, là. Et malheureusement, on va se retrouver avec la CAQ, c'est-à-dire des belles paroles en l'air. Fait que, tu sais, moi, puis à la limite, s'il veut m'évoluer mes idées, tant mieux, là. Ils appartiennent pas au Parti conservateur. Moi, je suis là pour faire avancer des idées. Moi, je suis même prête à l'aider à François Legault. S'il est sérieux, là, moi, je suis prête à aller le voir. Nous autres, ça fait des années qu'on pense à ça. On a toutes sortes d'affaires écrites. Lyon électrique, on a mémoire de 25-30 pages déjà d'écrits. J'ai écrit à Bernard Drainville pour lui dire que j'étais prête à l'aider. Pour ça, je peux lui donner tous les arguments au monde qu'il veut pour reculer sur les ventes de véhicules à essence, là. Je veux dire, avant la partisanerie, là, faut que les idées avancent, faut que le Québec avance. Moi, je suis prêt à mettre mes intérêts partisans de côté, big time.
Éric Duhaime, ça a été un plaisir.
Merci. Bon week-end tout le monde. Bye.
Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, était avec nous. Après la pause, on va jaser avec notre chum Jean-François Racine du Journal de Québec parce qu'à Québec, il se passe quelque chose de gros. Aujourd'hui, ça débute ce matin, c'est le Grand Prix cycliste de Québec et c'est les meilleurs cyclistes sur route du monde qui vont être au rendez-vous à Québec. Le départ, Jeff, et l'arrivée, si je ne me trompe pas, c'est en face du manège militaire.
En donc, plein ça.
La base des voltigeurs de Québec, là, juste à côté. Ben, je te dirais, là où ça fête.
Oui, alors évidemment, dans le coin, énormément de rues fermées. Donc, consultez là, justement la page du 511 pour avoir plus de détails. Sinon, sur la route, ça va très, très, très bien. Un léger ralentissement là, sur Félix Leclerc, direction ouest, à l'approche de l'autoroute Laurentienne. Mais le reste est au vert.
Et un petit breaking news juste avant de quitter pour la pause. C'est on aurait finalement arrêté un suspect dans l'histoire de l'assassinat de Charlie Kirk. Le gars est détenu et j'imagine qu'il était avec les enquêteurs actuellement. Fait qu'on va en savoir plus dans les prochaines heures, 8h47.
Marceau le matin. Marceau le